Vous écoutez France Culture.
Nouvelle édition de l'économie en question, comme chaque samedi matin, Dominique Rousset en compagnie de 5 experts ce matin pour leur demander de commenter l'actualité économique de la semaine en rapprochant ou en opposant leurs points de vue. C'est ce que nous verrons en se référant, s'ils le veulent et s'ils le souhaitent, à la théorie économique, à l'histoire de la pensée économique, pour mieux éclairer les enjeux dont nous allons parler. Nous avons choisi, comme d'habitude, deux sujets cette semaine qui présentent l'un et l'autre une dimension nationale et internationale, plutôt l'un est plus national, et l'autre sera international, et nous réserverons, comme à l'accoutumée, une troisième séquence à nos actualités invisibles que nos invités auront repérées pour nous qu'ils souhaitent signaler à notre attention. Notre premier sujet, le pétrole. Blood and Oil, titre sans embâge The Economist. Sang et pétrole, sous-titre Les leçons d'une tyrannie. C'est en effet la situation très explosive en Libye qui, au-delà des enjeux politiques, inquiète les marchés, les États et les consommateurs. Des conséquences économiques très nombreuses qui sont déjà apparues, d'autres à prévoir, et qui concernent aussi bien les prix des matières premières, les transports, les entreprises aussi implantées dans la région. Une extrême sensibilité aux événements, on l'a vu cette semaine d'ailleurs, hausse brutale, baisse à l'annonce d'un plan de paix à l'étude par la Ligue arabe, hausse à nouveau possible, probable, et les analyses se multiplient pas toujours très concordantes d'ailleurs. Que peut-il se passer si la Libye et demain l'Algérie cessent leur production? Comment sortir de cette durable dépendance de nos économies au pétrole? Années 70, guerre du Golfe et maintenant printemps arabe, nous verrons ce qui a changé tout de même. Deuxième sujet national celui-ci, les actualités sur l'épargne en France. Un nouveau plan d'épargne logement à compter du 1er mars. Des questions sur l'assurance vie, celle que souhaite nous proposer Madame Lagarde. Le livret A, toujours, qui a toujours la faveur des consommateurs et des épargnants. Et la confirmation par François Fillon, c'était jeudi, de la suppression du bouclier fiscal. Annonce aussi d'une réforme prochaine de la fiscalité. L'occasion pour nous de faire un point. Comment épargne-t-on en France? Comment et combien? Quels produits sont-ils privilégiés? Quelle interprétation donner au comportement des ménages? On verra que les préoccupations quotidiennes rejoignent parfois les grandes tendances de l'économie mondiale. Je suis sûre qu'Olivier Pastret va nous le faire observer. Sont avec nous aujourd'hui Dominique Plion, professeur d'économie financière à Paris 13, Xavier Timbaud, qui représente ici l'OFCE, le Centre d'économie de sciences politiques, département analyse et prévision, Jacques Mistral de l'IFRI, Institut français de recherche internationale, et Marc Gézé-Gabel, qui est directeur de la rédaction d'Enjeux les Échos, notre partenaire à l'économie en question, et bien sûr Olivier Pastret, avec qui nous avons préparé cette émission qu'il introduit tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Olivier.
Oui, on va commencer par l'épargne, un peu de théorie économique. Alors, deux grandes écoles, les classiques. Pour les classiques, l'épargne, c'est l'arbitrage dans le temps de la consommation. C'est en fait, on épargne, mais c'est de la consommation qui est différée. L'épargne et l'investissement sont par nature égales l'un à l'autre. Et la variable d'ajustement, c'est les taux d'intérêt. Dans ce modèle, il n'y a pas de crise de surproduction, l'offre crée la demande, c'est ce qu'on appelle la loi des débouchés. Alors la révolution keynésienne, c'est quoi? C'est remettre en cause cette théorie de l'épargne. Un, il y a les crises de surproduction. Deux, l'épargne et l'investissement sont bien égales ex post, mais ils ne sont pas forcément ex ante. Et donc les taux d'intérêt servent à faire l'arbitrage entre la monnaie et les titres, mais pas entre la consommation et l'épargne. Et c'est ça le fond du problème pour Keynes. Il y a trois motifs d'épargne, le motif de transaction, de précaution et de spéculation. Et par précaution ou par spéculation, les individus peuvent avoir des intérêts divergents avec la collectivité. L'épargne ne prépare donc pas à l'investissement, il peut même nuire à l'investissement, ce qui est un problème majeur, d'où la nécessité de la politique économique. C'est ça la grande rupture keynésienne. Juste un dernier théoricien en matière d'épargne, Modigliani, qui a, et on en parlera sûrement, introduit le cycle de vie et l'épargne. Comment est-ce qu'on épargne aux différents stades de sa vie et quelles conséquences ça peut avoir? Juste deux éclairages complémentaires sur l'épargne, juste pour donner aux auditeurs quelques éléments de grandeur macroéconomique. Si on prend le patrimoine des Français, les actifs non financiers représentent 7 000 milliards d'euros et les actifs financiers 3 500 milliards d'euros. Ça veut dire que quand on parle d'épargne et de placement en produits financiers, on ne parle que d'un tiers de l'utilisation de l'épargne des ménages. Enfin, un dernier mot sur le livret A, le produit d'épargne le plus connu des Français. Je rappelle qu'il y a 37 millions de détenteurs de livret A, créé en 1818 par Benjamin Delessert. Je signale qu'il y a un prix Benjamin Delessert qui va être distribué dans les semaines qui viennent. En regardant sur le site de Benjamin Delessert, vous pouvez avoir toutes les coordonnées pour la meilleure thèse en économie financière. Ça mérite d'être noté. Benjamin Delessert, en 1818, crée le livret A pour protéger les Français contre les dérives de l'État qui, sous la période napoléonienne, avait utilisé l'épargne des Français pour financer ses dépenses belliqueuses. Et le livret A, au départ, s'est fait pour protéger les intérêts des Français. Je rappelle un chiffre que j'ai découvert en préparant cette émission, que le versement minimal à l'ouverture d'un livret A, c'est 1,5 €. Donc il y a 37 millions de Français qui ont le livret A. Il pourrait y en avoir 60 millions. 1,5 €, je pense qu'on est certains d'entre nous à l'avoir. Le lien avec le deuxième sujet, comme toujours, merci Dominique, c'est très facile puisque taux d'épargne et produits pétroliers, c'est la même chose. Le problème des produits pétroliers, c'est qu'ils épargnent trop et que de ce fait, ils asphyxient la croissance. Donc, il y a un lien tout naturel. Sur les pays pétroliers, je vais parler d'un produit non pétrolier dont je suis maintenant devenu spécialiste mondial en quelques heures. Les schistes bitumineux dont on a déjà parlé dans cette émission et comme on en parle et que le Luberon est menacé, on va le défendre. C'est un peu comme les schistes bitumineux, c'est un peu comme les biocarburants. C'est-à-dire c'est présenté comme la solution miracle. Il n'y aura plus de problème de pétrole puisqu'il y a les schistes bitumineux. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la première exploitation de schistes bitumineux date de 1816 à Autun en France. C'est nous qui l'avons inventé. En fait, ce n'était pas un sujet simple. L'avantage des schistes bitumineux, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Les réserves mondiales, c'est 2800 à 3100 milliards de barils, c'est-à-dire presque trois fois plus que les réserves pétrolières, avec aujourd'hui 33 pays qui ont des réserves dans ce domaine-là. Ça sert à autre chose que de faire marcher les centrales chimiques, puisque ça sert aussi dans la production de fibres de carbone et dans certains produits pharmaceutiques. Le seul pays qui a vraiment développé ce modèle, c'est l'Estonie. 80% des schistes bitumineux extraits dans le monde aujourd'hui sont extraits en Estonie. Vous ne le saviez probablement pas. Voilà pour les aspects entre guillemets positif, mais du côté négatif, il y a un, ça coûte très cher. Il faut vraiment un baril à plus de 100 dollars pour qu'on puisse s'intéresser à ce type de produit. Et deuxièmement, il y a des effets écologiques absolument gravissimes, puisqu'il faut faire de la pyrolyse. Je ne suis pas spécialiste mondial, mais spécialiste de France Culture en pyrolyse pendant quelques secondes encore. Il faut chauffer à 500 degrés, plus injecter des produits chimiques pour sortir et traiter des schistes bitumineux. Et donc, ça a des effets toxiques absolument dramatiques. Et c'est par ailleurs très coûteux en énergie. Tout ça pour dire que c'est probablement pas la solution miracle, il faut évidemment y penser, mais ce n'est pas ça qui va régler la crise pétrolière que l'on a affrontée aujourd'hui.
Merci Olivier Pastret, c'est vrai qu'on va commencer évidemment par cette crise pétrolière, nouvelle crise pétrolière, on se rappelait très brièvement, celle des années 70, celle des deux guerres du Golfe, et aujourd'hui, devant quoi nous trouvons-nous ou devant quoi sommes-nous susceptibles de nous trouver dans les semaines ou les mois à venir, et en commençant aussi par ces fluctuations déjà très importantes depuis le début des événements qui veut tenter une première analyse de cette question, et on se posera effectivement la question de cette grande dépendance qui persiste au pétrole. Xavier Timbaus, qui est en face de moi.
La crise pétrolière à laquelle on fait face, je pense qu'il y a deux grands éléments qu'il faut distinguer. Le premier, c'est celui qu'a évoqué Olivier. On s'approche de la rareté du pétrole, ou en tout cas de la rareté du pétrole bon marché. Un baril de pétrole extrait dans les sables d'Arabie Saoudite, ça coûte aujourd'hui à extraire entre 10 et 20 dollars le baril. Extraire du pétrole d'une plateforme pétrolière en haute mer, comme celle de Deepwater, qui a explosé dans le golfe du Mexique, ça coûte au-dessus de 50 dollars. Et les gisements probablement abondants, mais du type schiste bitumineux, sont effectivement à des coûts de l'ordre de 100 dollars d'exploitation. Et alors, en plus, on se rend compte, que ce soit avec la plateforme pétrolière de BP ou même les schistes bitumineux, que ces coûts sont en fait optimistes parce qu'ils n'intègrent pas les dommages environnementaux et que si on valorisait les dommages environnementaux, on aurait des coûts qui seraient probablement doublés, voire triplés. Donc on est face à un pétrole qui
est en fait... Il est bon de le signaler d'entrée, en effet, c'est souvent un paramètre oublié. Oui.
Donc un pétrole qui n'est pas nécessairement absent, c'est-à-dire qu'on a des réserves, et quand on intègre ces réserves bitumineuses, par exemple, on a plusieurs dizaines d'années de production devant nous, mais on entre dans une ère du pétrole qui est cher. Ça, c'est un premier fait. Alors, ce pétrole cher, il a une deuxième conséquence, c'est qu'il alimente une rente de rareté pour les pays qui détiennent du pétrole qui n'est pas très cher à exploiter. Ces pays, c'est par exemple les pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite en tête, et il les met à la tête d'un trésor phénoménal qui, par ailleurs, les engage à spéculer sur le pétrole d'une façon assez particulière, puisqu'en fait, ils ont intérêt, dans ces pays-là, à garder le pétrole dans le sol, puisqu'il ne peut que se valoriser dans le futur, et que, en gros, le pétrole qu'ils ont dans le sol n'a pas nécessairement...
Ils n'ont pas besoin de revenus. Donc ils retiennent leur production, en fait.
Ils épargnent leur production potentielle en le gardant dans le sol, et ce qui contribue à faire monter les prix. Alors, comme en plus ces pays-là sont peu nombreux et sont politiquement, disons, dans des situations discutables, pour parler par euphémisme, et que la rente pétrolière a plutôt tendance à renforcer des régimes discutables, on est dans une situation géopolitique qui est complexe. Comme en plus les Américains regardent toujours ça avec... beaucoup de velléité d'intervention en se disant si jamais on envahit ce pays-là, peut-être qu'on pourra résoudre le problème géopolitique. On a des situations qui sont, c'est ironique, hein, qui sont évidemment un peu explosives.
Ouais.
Se rajoute à ça les
récentes... On rappelle quand même la Libye actuellement, c'est quoi ? C'est le quatrième producteur, je crois, de pétrole au monde. Et on dit que sa production a baissé de moitié depuis le début des événements.
C'est pas tout à fait le quatrième producteur.
2% de la production mondiale.
Voilà, ouais. Mais
vous dites 2%.
Enfin, c'est tout petit, mais en même temps, c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est 2 millions de barils par jour sur les 80 ou 85 qui sont produits chaque jour. Et c'est à même de provoquer une tension entre...
2 millions sur les 85 millions qui sont produits.
Voilà, alors c'est 2 millions. Il faut savoir que, par exemple, l'Arabie Saoudite a une marge de production de 4 millions de barils par jour. Donc, que l'Arabie Saoudite, potentiellement, peut couvrir la perte de production totale que la Libye pourrait représenter. Mais il y a quand même un facteur de tension et... Ce facteur de tension a rallumé le prix du pétrole, qui a à nouveau franchi les $100. C'est un phénomène qui est a priori conjoncturel. On peut imaginer que la Libye reviendra sur le marché pétrolier. Mais par contre, la question de la rareté fait qu'on ne peut pas imaginer dans les années qui viennent un pétrole qui descende en tout cas en dessous de $100. Et probablement qu'il sera même supérieur à ça si on intègre un jour correctement la dimension écologique et environnementale dans le prix du pétrole.
Et bien des gens pensent effectivement que le prix reste bas, même à 100, $100, si l'on intègre ces données environnementales. Dominique Pliot, on ne va pas vous contredire là-dessus, je pense.
Non, je ne vais pas contredire. Je vais peut-être compléter. Enfin, beaucoup de gens se posent la question de savoir si on est à la veille ou si on est déjà dans un nouveau choc pétrolier. Et pensent au choc pétrolier des années 70, hein, 74 et 79. Alors, il y a des différences. Peut-être que la comparaison, c'est toujours un peu dangereux. Il semble que le marché du pétrole soit devenu plus global, au sens où en 1974-1979, c'était vraiment un contrôle plus de 50% de la production par les pays de l'OPEP. Et là, la part des pays de l'OPEP a diminué. Hein. Je crois qu'elle est tombée à 40%. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres zones du monde. Alors, il y a l'Amérique latine, Venezuela, puis Brésil. Il y a l'Afrique, Nigeria,
Brésil, avec ce fameux miracle large de ses côtes.
Oui, et puis la Russie, qui est devenue le second producteur, qui a même dépassé l'Arabie Saoudite en 2009. Donc ça fait que il y a plus de pays producteurs. C'est un premier point. Mais le deuxième point, qui est peut-être le plus important, c'est qu'il y a des géants qui montent en puissance. Et on pense à la Chine, qui est devenue le deuxième consommateur mondial d'énergie et en particulier de pétrole. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est relativement nouveau, d'autant que la Chine est un pays qui est très, très dynamique, qui se développe beaucoup, évidemment, mais qui en plus a une diplomatie du pétrole très active. Hein. Il est en train de conclure, et là, je pense que Jacques Mistral, qui connaît mieux la Chine que moi, peut-être pourra le confirmer ou pas, est en train de conclure des accords bilatéraux, essayer de faire des échanges pétrole contre technologie, notamment avec les pays arabes, etc. Donc, ce qui veut dire qu'on va vers une situation de confrontation entre une offre et une demande avec des pays qui sont dans des situations à la fois économiques et politiques très, très distinctes. Donc moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Xavier Timbaud sur le fait qu'il faut penser à la géopolitique maintenant, à la géoéconomie du pétrole. C'est parce qu'on est d'un côté les pays d'Orient qui se développent et qui ne sont pas producteurs de pétrole, et de l'autre côté, les autres continents qui n'ont pas du tout les mêmes rythmes de développement et qui, eux, détiennent en effet leur noir. Hein. Et simplement, je dirais la chose suivante, c'est que j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Il faudrait qu'on parle de l'Europe. Parce que je pense qu'une fois de plus, l'Europe est dans une situation très fragile par rapport à la crise pétrolière et qu'il n'y a pas de politique européenne, alors qu'on pourrait en avoir. Et quand même, nous sommes très divisés par rapport à la question de l'énergie en général. Regardez ce qui se passe avec le gazoduc, avec la Russie. Et là, il y a un vrai problème. Je pense que c'est un sujet dont on doit parler en tant qu'Européens. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Y a-t-il des politiques ? Quelle politique pourrait-on mener ? Ça me paraît très important.
Oui, mais l'Europe qui part dans Olivier Passeret ? Oui.
Non, ce qu'il y a de merveilleux avec Dominique Clion, c'est que tous les combats perdus d'avance, il les mène, c'est tout à son honneur. Mais l'Europe pétrolière, je veux dire, on va évidemment en parler, mais enfin, c'est quand même un...
Il y a eu l'Europe du charbon et de l'acier, on pourrait imaginer que demain, il y ait une Europe de l'énergie.
En 58, oui.
Voilà.
Et il y avait une volonté politique.
Oui, il y avait une volonté politique.
Oui, l'Europe qui s'est par ailleurs...
On pourrait imaginer qu'il y ait demain une volonté politique. Olivier n'y croit pas, j'y crois.
Bien,
possible. Barroso...
On pourrait aussi mentionner...
Si c'est cela qui reste au pouvoir, en effet, on a peu de chance.
Mentionner que les pays d'Europe se sont bien organisés pour faire des économies d'énergie, parce que lorsqu'on dit que la situation n'est pas du tout la même que celle des années des premières crises pétrolières, c'est aussi qu'on est un peu moins dépendant du pétrole. Vous ne l'avez pas dit ni l'un ni l'autre. C'est pourtant un fait.
Enfin, on est un peu moins dépendant du pétrole,
il ne faut pas
complètement rêver. Parce que
mais alors, toutes nos économies d'énergie, tout ce qu'on en a fait faire à nos entreprises
plein d'économies
et aux consommateurs...
D'énergie, mais nos besoins d'énergie sont insatiables, d'une certaine façon.
Parce qu'il y a la Chine, mais chez nous, en Europe...
Non, même chez nous. En gros, depuis les années 70, on a réduit à peu près de moitié la quantité de pétrole qu'on utilise par personne. Mais depuis le début des années 80, cette quantité de pétrole par personne est à peu près constante. Et si on fait des économies sur les voitures qu'on utilise ou sur les bâtiments, on consomme aussi de plus en plus d'énergie parce qu'on utilise de plus en plus d'appareils énergivores. Mmh. Et les deux phénomènes, pour le moment, se compensent largement, ce qui fait que dans une économie comme la France, la consommation énergétique et en particulier des produits pétroliers pèse un poids considérable dans le PIB ou dans la consommation, puisque c'est un chiffre qui est entre 5 et 7%. Voilà, si, quand on double le prix de quelque chose qui est entre 5 et 7% du PIB, on produit un choc tout à fait considérable sur une économie. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de miracle à attendre là-dedans. Même si on a fait des économies d'énergie et qu'on a des belles ampoules à basse consommation, on reste quand même dépendant de l'énergie.
C'est très encourageant. Merci beaucoup, c'est un beau. La Chine et la Libye, Jacques Mistral.
Oui, mais c'est une réunion aujourd'hui sans querelle. C'est presque dommage.
Bon, on n'a pas encore entendu Olivier Passeret.
Non, tout ce qui a été dit, je n'ai rien à ajouter. Simplement confirmé, par exemple, puisqu'il m'a invité gentiment.
C'est pas
ce
obligé,
que disait
d'ailleurs, hein.
Dominique. Non, mais la Chine a une stratégie extrêmement active, pas simplement en Libye, mais dans toute l'Afrique, et souvent en collaboration avec des firmes occidentales. Et par exemple, Total, qui a une présence très active en Chine même, considère souvent que la vie en Chine n'est pas très facile pour les compagnies étrangères. Et en revanche, Total a des coopérations, d'après ce que disent ses responsables, très, très positives avec leurs homologues chinoises dans un certain nombre de pays d'Afrique. Je rajoute juste une chose dans ce panorama un peu géopolitique, c'est de dire qu'en matière énergétique, il ne faut jamais oublier le charbon, qui est la principale ressource énergétique de la Terre et qui se trouve en particulier en abondance aux États-Unis, puisqu'on n'en a pas parlé. Les États-Unis ont des ressources en charbon qui leur permettent d'être indépendants en manière énergétique jusqu'à un horizon extrêmement éloigné. Et je rappelle toujours, avec un petit peu d'ironie, que l'US Air Force fait désormais voler ses B-52 au charbon, c'est-à-dire en refabriquant, comme les Allemands à la fin de la guerre, en refabriquant du kérosène à partir, selon des méthodes qui ont été naturellement perfectionnées depuis. Enfin, l'Amérique se prépare éventuellement à ce genre de situation dans laquelle sa liberté de manœuvre géopolitique serait compromise par un choc pétrolier quelconque. Mais pour mettre un peu de controverse dans cette séance qui sinon va paraître bien terne à nos auditeurs et avant qu'Olivier enflamme la discussion, je voudrais quand même dire un mot des conséquences internes parce que dès que le prix du pétrole augmente, et il augmente, on l'a dit, plus ou moins, mais enfin on est dans une période quand même où on sent qu'on est sur un marché très tendu, eh bien on voit apparaître les craintes, les protestations concernant l'érosion du pouvoir d'achat, les protestations, les attentes vis-à-vis du gouvernement, des décisions de politique économique qui permettraient de corriger ce choc tout à fait dramatique et indu. Je voudrais juste rappeler qu'on a fait dans le passé des erreurs colossales avec cette question, très précisément, en 1973-74, de nouveau en 79, de nouveau progressivement en atténuant nos erreurs dans les années 90. Mais l'erreur, fondamentalement, c'est de croire que l'on peut corriger l'impact d'un choc pétrolier. On ne peut pas, pour la raison qu'évoquait très bien Xavier Timbaud, et que je répète à ma manière, c'est qu'un choc pétrolier, c'est l'augmentation d'un prix extérieur, du prix des importations, et que ceci, on ne pourrait le compenser qu'en augmentant dans les mêmes proportions, c'est-à-dire par exemple en multipliant par 30%, le prix de nos propres valeurs ajoutées, le prix de la production intérieure brute. Et ceci, évidemment, est absurde, puisque dans une situation de ce genre, les prix du pétrole eux-mêmes reprendraient leur avance. Donc l'idée que l'on peut compenser la perte de pouvoir d'achat que provoque le choc pétrolier est une idée qu'il faut écarter. Il faut éviter les erreurs que l'on a faites dans le passé et qui consistaient à répercuter ces hausses de prix dans les revenus nominaux. Et si on considère que pour des raisons sociales qui sont très compréhensibles ou pour des raisons professionnelles qui sont également compréhensibles pour tout un certain nombre de catégories sociales dont on va voir les protestations dans les jours et les semaines qui viennent, les agriculteurs, les pêcheurs, etc., eh bien, il faut prendre des mesures ciblées qui relèvent de mesures de redistribution nationale, c'est-à-dire qu'il faut faire des transferts financés par prélèvements sur d'autres catégories sociales ou acteurs professionnels dont on pense qu'ils sont moins affectés par la hausse du pétrole. Mais en tout cas, l'idée qu'on pourrait facilement compenser la perte de pouvoir d'achat national en augmentant les revenus nominaux, ça, c'est une idée qu'il vaut mieux barrer définitivement dès ce samedi matin.
D'accord, tout le monde là-dessus. Olivier Pastret ou Marc Jesgamer ensuite.
Il y a en fait trois sujets totalement disjoints. Un, la taille du gâteau. Deux, la part du gâteau. Et trois, qu'est-ce qui mange les parts. Sur la taille du gâteau, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, on est dans une situation de risque de pénurie énergétique globale et donc le prix des matières premières énergétiques va augmenter. On est à $100 aujourd'hui, on sera peut-être à 80 la semaine prochaine, on sera nécessairement un jour ou l'autre, dans un avenir proche, sauf mes schistes bitumineux qui sont un peu compliqués, à mettre en exploitation, on peut arriver à 150 ou à $200. Donc ça, c'est sur la taille du gâteau. Deuxièmement, comment on se le partage ? Ce qu'on entend dire sur qu'est-ce que une révolution en Libye pourrait provoquer en matière de marché énergétique, c'est absurde. C'est dérisoire. Je vais faire pour une fois, c'est pas du tout mon genre de la provocation, mais à supposer que l'Arabie Saoudite, ce qui a peu de chances d'arriver parce que les Américains sont là, implose même ça. Il y a une capacité de production et d'exploitation aujourd'hui à l'échelle mondiale en matière pétrolière qui pourrait faire en sorte que même une tension géopolitique majeure pourrait être gérée. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas. Alors après, que les marchés financiers soient fous, ce n'est pas dans cette émission qu'on va dire
pas
le contraire.
Pas du tout d'accord.
La seule région du monde où il y a des stocks excédentaires, tu n'as pas terminé.
Je vais terminer. Troisième niveau, c'est celui qu'a évoqué Jacques Mistral, qui est-ce qui mange le gâteau ? C'est-à-dire que quelles sont les professions, les métiers, les personnes, les catégories sociales qui sont pénalisés par
Vision bisounours que nous présente Olivier Pastret.
Alors, ça serait un scoop, allez-y.
Pour une fois. Alors, peut-être Marc Jézégabel auparavant et Dominique Plion, pas du tout d'accord, nous a-t-il dit.
Mais juste pour comprendre l'idée du choc et pourquoi tout ça est fragile. Parce qu'effectivement, la Libye, j'ai dit tout à l'heure, c'est 2%. Donc 2%, on peut s'en sortir, il n'y a pas de risque de pénurie. Le problème, c'est qu'on part d'une situation de quasi-équilibre, c'est qu'on a parlé de la Chine tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'ensemble des émergents, aujourd'hui, l'offre et la demande de pétrole est à peu près équilibrée. Donc dès qu'on bouge 1 ou 2%, effectivement, il y a un risque. Alors l'Arabie Saoudite nous dit effectivement que ça va se calmer.
Demain matin,
c'est vrai à court terme, sauf que il faut considérer deux choses. C'est que, un, on n'en est pas sûr, que les marchés détestent l'incertitude et que ça fait monter les cours de manière quasi mécanique. Ça, on peut le constater dès à présent.
Les marchés financiers sont fous.
Si,
oui, donc de manière même artificielle, c'est-à-dire
que c'est pas lié directement.
Et que moi, je pense qu'il faut tenir compte du fait que c'est probablement pas une crise tout à fait conjoncturelle, la Libye, qu'on est dans une situation relativement explosive, où si on regarde notamment les pays de l'OPEP, 8 pays sur 12, c'est des régimes qui sont pas très défendable et dont on sait que probablement ils ont une durée finie. Donc à un moment donné, ça risque de ne pas s'équilibrer entre eux et que donc il y a un vrai risque de tension forte, peut-être de choc pétrolier, en tout cas de tension forte, qui devrait faire monter les prix. Il n'y a pas de risque de pénurie, effectivement, il y a des substituts possibles, mais que ça pèse très fort sur le prix et le renchérissement du coût du pétrole, ça me paraît relativement inévitable.
Le relativement court terme. À court terme, une des questions qui se pose, c'est de savoir s'il y a des stocks excédentaires ou des capacités excédentaires. Il n'y a pas de stock, véritablement. Par contre, il y aurait des capacités excédentaires. Celle de l'Arabie Saoudite, c'est la seule région où il y en aurait. Sauf que, il y a eu des fuites. Voilà, c'est pas énorme. Oui, enfin, 100 jours. Il y a eu des fuites organisées organisées
par... Il y a 100 jours, vous dites. Oui.
Il y a, des fuites organisées par Wikileaks, apparemment, sur le fait qu'on aura totalement surestimé les réserves et la puissance d'extraction de pétrole à court terme, dans les semaines qui viennent, de l'Arabie Saoudite. Et donc, il y a un certain nombre de spécialistes, de revues spécialisées dans le pétrole, qui indiquent que s'il y a des tensions très fortes qui se manifestent, et notamment si la croissance reprend, continue et se développe dans un certain nombre de régions du monde, il y aura des hausses de prix tout à fait importantes. Et qu'en d'autres termes, ce qui s'est passé en 2008, où il y a eu des tensions sur le prix du pétrole, et l'Arabie Saoudite est intervenue pour produire plus d'ailleurs à la demande des Américains, ça pourrait ne pas se reproduire facilement cette fois-ci. C'est-à-dire la possibilité, en quelque sorte, d'abonder le marché parce que les réserves et la capacité d'augmenter la production sont pas si importantes. Mais c'est une conjecture. Hein. J'ai lu des revues pour préparer cette émission. Il y a un certain nombre de spécialistes qui disent qu'on a fortement surestimé les réserves et les capacités d'augmenter la production.
Bah oui. Voilà. Qu'on a déjà
donc ça voudrait dire qu'on est à la veille quand même d'une possibilité d'une hausse durable du prix.
Olivier Pastret.
Oui, mais enfin, c'est Wikileaks contre Bisounours. Franchement, je préfère Bisounours. Hein. D'abord, il faut m'expliquer pourquoi ma thèse, c'est Bisounours. Parce que sur le fond, j'ai commencé par dire que je ne suis pas inquiet. Je suis certain que les prix de l'énergie et du pétrole en particulier vont augmenter pour des raisons objectives.
Si l'Arabie Saoudite a un problème, on compensera, ce qui me paraît quand même assez gros.
Et par ailleurs, je répète que je pense que si on regarde les stocks, les capacités de production, il n'y a pas de raison objective qu'il y ait une flambée brutale, hors effet des marchés financiers, hors panique, mais qui n'a pas de raison objective dans le court terme, à l'horizon d'un an
J'espère
ou deux
que vous
ans.
Avez raison.
Mais c'est pas bisounours du tout, parce que sur le fond, ce qui est grave, c'est que les prix du pétrole vont de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on les gère bien, augmenter et que ça va
pénaliser. On ne va pas vraiment parler d'optimisme. Alors, Xavier Timbaud.
Je pencherai plutôt du côté d'Olivier Pastret. Je pense qu'on a longtemps pensé le pétrole comme une géopolitique avec des pays qui sont clés. Ben, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'entre le gaz liquéfié, le charbon transformé en charbon liquide, donc qui correspond exactement au même usage qu'un kérosène, les différentes sources possibles pour le pétrole, parce qu'on a beaucoup étendu la technologie d'extraction du pétrole, que ce soit les schistes bitumineux, le pétrole en haute mer, etc. En fait, il y a une grande diversification aujourd'hui des possibilités d'approvisionnement en énergie primaire. Donc, de ce côté-là, la géopolitique des années 70-80...
Donc, on est bien d'accord, la dépendance au pétrole a baissé.
La dépendance au pétrole du Moyen-Orient a baissé, indéniablement.
Oui, je disais au début, quand c'est plus global, on est complètement d'accord.
C'est plus global, et cette diversification permet d'y voir un tout petit peu plus clair, a réduit le pouvoir de l'OPEP, et a un petit peu simplifié le problème. Et peut-être que les Américains n'ont pas encore tout à fait pris en compte toutes ces dimensions-là dans leur politique étrangère, mais il y a quelque chose de plutôt positif là-dedans. Par contre, il faut avoir conscience que tout ça se fait avec une hausse irréversible du coût d'extraction de l'énergie, du coût de production de l'énergie, et qu'aujourd'hui, le plancher est à 100 dollars. Et quand on pense que le prix du pétrole était à 20 dollars il y a 10 ans, ou même à 10 dollars il y a 10 ans, on voit le bond qui a été réalisé. Et si on est moins dépendant du pétrole du Moyen-Orient, on est par contre toujours extrêmement dépendant des énergies non renouvelables en général. Et de ce côté-là, l'augmentation du coût de l'énergie va jouer. Alors ceci étant dit, encore une fois, pour rassurer tout le monde, le pétrole à 100 dollars, ça n'est qu'une demi-mesure par rapport aux enjeux d'émissions de CO2. Dans lequel il faudrait plutôt le mettre à 200 voire à 300 dollars.
Tout à fait, si c'est l'observation que je voulais vous faire. Si on suit les objectifs environnementaux, il devrait être bien plus cher.
Et en particulier, le drame dans lequel on se trouve aujourd'hui,
décourager les utilisateurs, en quelque sorte.
Que la rareté
et forcer à d'autres sources.
Et la rareté et le coût d'extraction des sources d'énergie primaire n'est pas suffisante pour nous dispenser d'une action en vue de la limitation des émissions de CO2.
Oui. Les toutes dernières remarques là-dessus, on passe au sujet suivant.
Merci pour les auditeurs du 9-3 qui ont impérativement besoin de la voiture pour aller travailler.
Ça, c'est un autre problème, Olivier.
Jacques Mistral.
Mais ça soulève une question que j'introduis souvent dans le débat comme exemple du fait que l'ensemble des domaines de politique économique sont liés. C'est que les choix qui ont été faits en matière de logement depuis des années, par exemple, sont absurdes au regard de la perspective certaine que nous avons sous les yeux d'une raréfaction progressive des ressources d'énergie primaire non renouvelable. Et par conséquent, le fait de pousser la population à devoir utiliser, à être dépendante de plus en plus de ces moyens de transport individuelle, d'avoir ces petites maisons isolées qui sont qui gaspillent de l'énergie, c'est franchement un contre-choix. Donc c'est bien des problèmes liés.
Oui. À quoi on peut ajouter une étude dont j'ai entendu parler très récemment, c'était dans un colloque cette semaine, qui montre que dans les grandes entreprises de la ceinture de la région parisienne, ce sont les cadres qui habitent le long des voies de transport, RER, voies ferrées, trains, métro, commodes, et que les non-cadres, donc moins fortunés, sont tous obligés de venir en voiture, ce qui rejoint quand même la remarque d'Olivier Pastrac.
À l'avenir, et ça reprend ce que disait aussi Jacques Mistral, il y aura deux objectifs qui sont à l'apparence contradictoires. Il va falloir accepter et même organiser la hausse des prix de l'énergie pour susciter des substitutions, des nouvelles formes d'énergie, etc. Et que ça va heurter de plein fouet un autre objectif social, c'est-à-dire la question de l'impact inévitable, comme ça a été dit, sur notamment les couches de population, évidemment, qui ont les revenus les plus bas. Il va falloir organiser des politiques sociales de redistribution extrêmement ambitieuses. Et pour le moment, on n'en voit pas trop, disons, l'amorce. Ces deux sont liés, quoi. Politique énergétique, politique sociale.
Bien, merci pour toutes vos observations, sujet qui n'est certainement pas clos et qui est très évolutif. En plus, on l'a bien vu. On y reviendra certainement dans les semaines qui viennent. Et nous revoici sur le sol français. D'ailleurs, on vient de le faire avec vos dernières remarques. Et ces actualités, je veux dire, autour de la situation de l'épargne en France. Alors, j'en ai cité plusieurs. C'est vrai qu'elles se retrouvent toutes en ce début du mois de mars. Elles ne sont pas en soi, chacune d'entre elles, d'une immense importance. Mais ça nous permet de poser la question de l'épargne dans notre pays. Et puis de cette réforme fiscale, quand même, on ne peut pas la détacher de l'épargne. Mais d'abord, qui épargne et comment? Je ne sais pas qui souhaite démarrer là-dessus. Les Français sont plutôt des épargnants, si je... On résume bien. Et ça reste
nous
vrai.
Nous avons un taux d'épargne à nouveau parmi les pays comparables, plus élevés, aux environs entre 15, il est même monté jusqu'à 17% du revenu disponible des ménages. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a eu des transformations assez profondes dans la nature de l'épargne. Le comportement d'épargne a évolué, notamment en direction de l'épargne financière. C'est-à-dire que les Français, depuis une vingtaine d'années, ont vraiment considérablement développé leur épargne financière, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait la préférence pour la pierre, pour la terre, etc. Et là, il y a véritablement une explosion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'épargne financière a considérablement augmenté et qu'elle s'est transformée dans sa structure. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une épargne qui était surtout liquide. On a parlé du livret A, c'est l'argent qu'on peut retirer à tout moment. Mais de plus en plus, les Français...
liquide alors, est sûr,
vont vers des formes d'épargne différentes. On pense évidemment à l'assurance vie. Sauf que là, il y a la question tout de suite de qui peut épargner. Ces nouveaux produits d'épargne qui se sont développés de manière extraordinairement rapide, comme l'assurance vie, c'est développé évidemment surtout pour certaines couches de la population qui ont des revenus suffisamment élevés pour pouvoir épargner régulièrement et constituer des plans d'assurance vie. Et d'ailleurs, pour on parle beaucoup en ce moment de la loi de finances, des exonérations fiscales. Eh bien, une des principales niches fiscales, exonération fiscale, concerne l'assurance vie. Ça coûte à l'État chaque année 3 milliards d'euros, toutes les exonérations au titre de l'assurance vie, ce qui est et qui profite surtout aux ménages les plus aisés qui font de l'assurance vie. Mais c'est un produit phare, en tout cas, en France. Et ça, c'est,
ça marche,
c'est quelque chose de relativement...
Actualité autour de l'assurance vie, je l'ai dit, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, voudrait d'ailleurs donner probablement son nom. C'est un contrat Lagarde qui fait un peu réagir les mutuelles. Elles n'en veulent pas, tout simplement. Contrat, d'ailleurs, ce n'est pas la première à faire cette proposition. J'ai lu que Dominique Strauss-Kahn l'avait aussi envisagé en 98 et après lui, Nicolas Sarkozy en 2004, qui mettait en place des contrats donc suivant le même principe, à savoir, en contrepartie du risque pris, une fiscalité plus attractive, mais qui jouait sur les actions. C'est-à-dire qu'on demandait pour cette assurance-vie d'investir également dans des actions. Les mutuelles ne sont pas vraiment d'accord avec ce principe. Le gouvernement voudrait favoriser ces contrats investis en actions, ce qui implique, selon eux, de pénaliser les contrats en euros et de favoriser des contrats en unité de compte, c'est-à-dire les gens, sinon, ne vont pas s'y retrouver. Alors, sans rentrer peut-être dans le détail, peut-être un peu technique, mais quand même, ce n'est pas inintéressant. Et ça va vers ce que vous disiez, Dominique, d'une plus grande diversité. Jacques Mistral, sur ces questions
qui nous concernent tous. Dominique a indiqué dès le départ qu'il y avait... au moins deux sujets de discussion très différents, qui étaient le niveau global de l'épargne dans le pays et deuxièmement sa répartition par couche sociale ou sa composition par produit. Ma première remarque porte sur le niveau, parce qu'on considère souvent, et d'ailleurs ça vous l'avez dit Dominique en introduction, on considère souvent que les ménages français ont un taux d'épargne plutôt assez élevé, qui est le fruit de décennies de mesures en faveur de l'épargne. Ce qui est vrai. Et on en déduit parfois, ce qui va être faux, que c'est une des raisons pour lesquelles notre pays a une croissance plutôt modéré, parce que, dit l'argument de type keynésien, puisque le taux d'épargne est élevé, la consommation
n'est
pas suffisante. Alors je voudrais, comme j'aime bien démolir un peu les idées reçues, je voudrais m'élever vigoureusement en faux contre cette seconde partie du raisonnement, car quand on regarde le niveau de l'épargne globale, on s'aperçoit, l'épargne globale du pays, on s'aperçoit que cette épargne est insuffisante pour couvrir nos besoins. Il y a une preuve qui est absolument incontestable de cette affirmation, c'est que nous sommes dans un déficit extérieur. C'est un thème sur lequel je reviens assez régulièrement dans cette émission. Nous sommes dans une situation de déficit extérieur très important et croissant. Et ceci a une seule origine, c'est le fait que nous dépensons plus sous forme de dépenses publiques, de consommation des ménages et d'autres sources de dépenses que nous n'épargnons. Par conséquent, la première idée dont il faut bien que les auditeurs se convainquent, c'est que le taux d'épargne du pays est insuffisant par rapport aux besoins d'investissement.
Bien, c'est dit. D'autres analyses, Marc Jézégabel, cette question de l'épargne est-elle importante
Oui. À la fois, elle est juste. C'est-à-dire que globalement, vous avez raison. Et à la fois, j'ai l'impression qu'on est un peu à contre-temps. C'est-à-dire que malgré tout, les Français sont un peu schizophrènes. C'est-à-dire qu'on a trop de dépenses publiques. Et finalement, il y a ce taux d'épargne des Français qui sont des fourmis. Trop de dépenses publiques, on est d'accord, oui.
Trop de dépenses publiques. Exactement.
Voilà. Mais que les Français, effectivement, sont des gros épargnants. Et quand on disait plutôt beaucoup, effectivement, c'est quand même le record d'Europe. Et qu'on est dans une période de reprise très fragile, malgré tout, où moi je suis pas tout à fait d'accord. J'ai le sentiment que la consommation, pour le coup, si elle continue pas à tirer un tout petit peu cette croissance, on va être dans une situation très délicate. Donc l'idée, c'est pas d'encourager particulièrement de l'épargne en plus. Il y a un matelas d'épargne qui est important des Français aujourd'hui. Et l'idée, c'est pas de leur dire épargnez plus et consommez moins.
Vous avez un mot ?
Deux éléments pour compléter et contredire un tout petit peu ce que dit Jacques Mistral, enfin, ou en tout cas de le mettre dans une dimension temporelle qui est quand même importante. Le patrimoine des Français net, d'un Français moyen, si tant est que ça puisse exister, dans lequel on compte d'un côté son patrimoine privé et ce qu'il aurait éventuellement comme dette, enfin, la part qui lui échoit de la dette publique et de tous les engagements collectifs. Donc c'est une valeur qui est positive aujourd'hui et qui représente en moyenne par Français 200 000 euros. Le même chiffre aux États-Unis.
Intéressant, c'est un chiffre qu'on ne cite pas souvent.
200 000 euros. Alors, on parle souvent, par exemple, la dette publique atteint 20 000 euros par Français. D'accord. Ces 20 000 euros, certes, existent, mais ils sont, pour le Français moyen, compensés, ou à mettre en regard, en tout cas, de 200 000 euros de patrimoine net, tout compris collectif. Pour un Américain, la situation est radicalement différente, puisque en euros, le patrimoine d'un Américain, et pourtant le PIB américain est à peu près 30% supérieur à celui de la France, ce patrimoine représente à peu près 150 000 euros, un petit peu moins. Et l'Américain a la caractéristique par rapport aux Français moyens de devoir à peu près 20 000 euros ou 20 000 dollars, on va chipoter sur le taux de change, à l'étranger, alors que le Français, malgré le déficit courant récent, reste dans une position nette vis-à-vis de l'extérieur qui est parfaitement équilibrée. Ça se joue à quelques centaines d'euros en moyenne par Français. C'est donc un chiffre qui est relativement faible.
Et c'est mieux, si on vous écoute.
C'est mieux en termes
de l'exposition, comment il faut l'entendre,
au taux de change et le risque que l'on court éventuellement de ne pas pouvoir accéder au refinancement de l'étranger. Donc ça limite l'exposition à ce genre de risque. Bon, c'est pas que les États-Unis soient très exposés à ce risque, mais c'est quand même un risque qui est potentiel pour les États-Unis. Et donc de ce côté-là, il y a une grande différence entre, par exemple, les Français et les Américains. Alors il y a un exemple évidemment qu'on pourrait mettre sur la table. Ce sont les Allemands qui, eux, sont dans une position qui est radicalement différente, dans le sens où ils ont un patrimoine qui est à la fois supérieur à celui des Français et des Américains, mais également une position extérieure qui, elle, est largement excédentaire sur le reste du monde, parce qu'eux accumulent un excédent commercial au courant depuis bien des années. Mais l'image selon laquelle les Français sont plutôt des fourmis est une image tout à fait juste et qui reste stock très largement.
Olivier Pastret, Jacques Mistral, oui. Mais non plus. Pas forcément d'accord avec vous.
Mais attendez, malheureusement, pas beaucoup de désaccords à opposer par rapport à ça. Ce sont des données statistiques, des faits.
Est-ce qu'on peut en livrer d'autres que les vôtres,
patrimoniales. Mais ces faits-là ne sont pas en eux-mêmes
contestables. Elles sont incontestables. Elles sont incontestables, mais le coup de la fourmi et de la cigale, les fourmis, je me place sur le terrain qu'a choisi Jacques Mistral, qui est les comparaisons internationales. Il faut aussi rappeler aux auditeurs que les vraies fourmis dans le monde, c'est un vrai problème macroéconomique, c'est les Chinois. Parce que là, le taux d'épargne, c'est 30% donc, du revenu. Donc je ne conteste pas
ce que vous... C'est lié aussi à leur situation de protection sociale insuffisante et le reste.
Mais attendez, peu importe.
Retraite, sinon rien.
Ça change tout. Mais après, ça s'explique.
Oui, d'accord, mais c'est
un fait. Je suis comme Xavier Timbaud, on est fondamentalement scientifique, donc on donne des faits. Je donne des faits complémentaires de ceux qu'il a cités. Et donc, la France, comme les pays européens, parce que pour moi, ce n'est pas le vrai sujet, sont dans une honnête moyenne, ils épargnent. Alors, on peut dire que les Français plus que mais le vrai sujet, j'espère qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette épargne? J'ai donné des chiffres sur l'immobilier et les placements financiers. Je laisse de côté l'immobilier sur les placements financiers. Le sujet pour l'avenir du monde, et ça rejoint d'ailleurs les problèmes pétroliers, c'est est-ce qu'on a des gens qui sont prêts à investir à long terme, alors que toutes les normes comptables, prudentielles et autres découragent tout le monde de le faire. Et là, à mon avis, a été évoqué des positions de Mme Lagarde, M. Strauss-Kahn. Je pense que c'est un vrai sujet pour la campagne électorale à venir. Ça n'a rien de politique de ce que je dis. C'est que à quoi la masse d'épargne qu'on a, qui me paraît ni trop élevée, ni trop faible, va servir dans les années qui viennent. Et ça, c'est des vrais enjeux. Oui. Ça ne veut pas dire que les autres enjeux ne sont pas importants.
Je ne suis pas là-dessus. Je voulais juste compléter un autre aspect qui est intéressant. Quand on regarde les dernières statistiques sur l'épargne en France, on s'aperçoit que, donc, il y a, très justement, on vient de le dire, une augmentation du taux d'épargne. On parle d'épargne de précaution, c'est-à-dire que les gens sont inquiets sur l'avenir, donc c'est un comportement tout à fait normal.
Et de plus, ce qui nous rattache à notre sujet précédent,
exactement,
hein, c'est-à-dire le pétrole
bien
augmente,
sûr,
on
bien
épargne
sûr, mais
davantage.
Ces deux sujets sont liés à cause d'accord. de ça. Et par ailleurs, il y a, alors je ferai un peu de théorie économique dans le prolongement de ce que disait Olivier Pastré, c'est qu'il y a une préférence pour la liquidité aussi. On voit que les ménages désinvestissent dans le financier vont plutôt vers des placements liquides. Et ça, Keynes l'avait très bien analysé, c'est quand il y a de l'incertitude, quand il y a une inquiétude sur l'avenir, les gens épargnent plus, mais aussi vont vers des actifs plus liquides. Donc en ce moment, c'est un baromètre. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on peut critiquer qu'il y ait plus d'épargne, mais aussi on peut le voir comme un indicateur qui est assez inquiétant, d'une certaine mesure, en effet, un indicateur inquiétant de l'évolution du moral ou de l'inquiétude des ménages français. Et ça ne se produit pas qu'en France, hein. Ça se produit en France et dans d'autres pays, c'est augmentation de l'épargne de précaution, augmentation de la préférence pour la liquidité, c'est-à-dire inquiétude sur l'avenir. C'est ça qui est un peu intéressant à commenter et inquiétant.
Tout à fait. Pour conclure sur ce sujet, avant vos actualités invisibles,
sur la composition de l'épargne, donc l'épargne sert à financer deux grands types d'usages, le financement des déficits de l'État, mais si on veut, comme les propositions diverses de Mme Lagarde ou de M. Strauss-Kahn y poussent, si l'on veut orienter à juste titre l'épargne vers le financement des activités productives, des activités innovantes, l'investissement, la recherche, encore faut-il qu'il y ait une demande. Et un autre problème qui n'est pas dans les séances de ce jour, mais il faudra se consacrer.
Hein, mais il y a une capacité demande d'absorption de l'épargne dans les secteurs innovants.
Il y en a des milliers, demandez à tous les patrons de PME. Je ne veux pas me faire le défenseur des patrons de PME, mais très franchement,
formidable. Le taux d'investissement productif dans notre pays, le taux d'investissement en recherche dans notre pays sont en recul à des niveaux qui sont extrêmement préoccupants. Donc je suis absolument pour que l'on pousse, que l'on développe les mécanismes qui encouragent l'épargne à aller vers ces formes d'action qui financent plus facilement le développement productif, mais je serai soucieux aussi de vérifier que la demande d'investissement productif, la dépense en faveur de la dépense privée en matière de recherche et développement, progresse à un rythme suffisant.
On ne la voit pas assez pour vous.
Mais
oui.
je vous rassure, il y a quand même des mécanismes fiscaux. La réalité, c'est ça. Où on relance la croissance en France, où on ne la relance pas. Si on ne la relance pas, on va être vraiment dans une situation difficile. Pour la relancer, il faut qu'il y ait des entreprises qui créent de la valeur. Pour ça, il faut inciter les gens à investir dans ces entreprises. Alors, ça aura sûrement un coût fiscal. Mais la demande d'investissement de la part d'entreprises en France, à mon avis, il y en a.
À voir et à suivre là encore. Et on n'a pas vraiment évoqué la réforme de la fiscalité, mais c'est un sujet en soi. Et évidemment, tout ceci en fait partie, notamment les niches fiscales. Hein, vous en avez mentionné quelques-unes et certaines, nous les avons abordées. Vos actualités invisibles pour terminer cette émission, qui en a repéré. Encore une fois, je le rappelle, ce sont des actualités que nous n'aurions pas forcément remarquées, surtout parce qu'aujourd'hui, les titres sont très occupés à ce qui se passe dans le monde. mais qui vous paraissent quand même intéressantes, porteuses d'avenir. Marc Zegabel, tenez.
Je ne sais pas si elles sont porteuses d'avenir. Que relève-t-on dans Échos ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, et à chaque fois, c'est un licenciement. Donc la bonne nouvelle, c'est le départ de Didier Lombard de France Télécom, parce que finalement, je me dis que ça donne un signe que les petits arrangements entre amis, ben finalement, on est peut-être à la fin. Et l'autre qui est plus inquiétant, c'est Mohamed Younous, qui a été le fondateur
prix
de
Nobel,
l'armement,
oui.
Prix Nobel bien connu, etc., qui lui a été viré pour de sombres raisons un peu étranges et qui apparaissent plus comme des problèmes de personne. Et là, pour le coup, c'est assez inquiétant parce que c'est à la fois ce qu'il a mis sur pied, ce qu'il a créé, notamment dans son pays, et qui depuis a été exporté, est quand même plus menacé qu'on ne le croit. Donc voilà, donc il y a deux licenciements.
On le rappelle tout de même, son pays, c'est le Bangladesh.
C'est
le
Bangladesh. Et qu'au Bangladesh, il y a plus de 8 millions, dont 90% de femmes, de
microcrédit. Il est l'inventeur du microcrédit.
C'est l'inventeur du microcrédit.
Merci Marc Zegabel. Celle-ci était peut-être moins repérée que celle de Didier Lombard, en effet. Jacques Mistral.
Bien, moi, je voudrais attirer l'attention sur un graphique insolite qui a été publié hier vendredi par Enjeux des Échos. Hein, c'est publicité gratuite et très très bienvenue. Graphique insolite qui cite une source statistique venant de Google, cherchant à savoir quelle est la fréquence des mots État et marché dans les livres actuellement numérisés en français depuis le 18e siècle. Et on voit le mot État apparaît beaucoup plus fréquemment que le mot marché. Et on observe en particulier deux grandes bosses, une dans la seconde moitié du 18e siècle et une dans la première moitié du 20e siècle, où le mot État était beaucoup plus employé. Aujourd'hui, ils sont côte à côte et je laisse la question ouverte pour nos auditeurs de savoir ce qu'il en sera demain dans les futurs livres publiés en français.
Voilà qui doit vous intéresser, Dominique Plion. Avez-vous une actualité?
Oui, alors moi, ça concerne... La semaine dernière, on a parlé des indicateurs à propos du G20. Là, je vais vous parler des indicateurs de richesse. Le Parlement allemand vient de nommer une commission pour réfléchir aux limites des indicateurs traditionnels comme le PIB hein, de richesse et réfléchit donc un peu comme on l'a fait en France avec la commission Stiglitz à ces questions de comment mesurer le bien-être, comment élargir la notion de richesse au sens le plus large possible. Et tout ça est très bien, sauf qu'en France comme en Allemagne, on s'aperçoit que les progrès des statisticiens de comptabilité privée comme de comptabilité nationale dans ce domaine restent quand même très très lents. On en parle beaucoup et il serait maintenant temps de passer à l'acte, de mettre en place de vrais indicateurs et qu'on les utilise pour notamment les décisions de politique économique, par exemple.
Merci. Vous passez votre tour, Xavier Tabou. Alors très très vite, on est à la fin.
Donc quelque chose qui n'est pas
c'est
du
Olivier
tout passé,
qui passera son tour.
Qui n'est pas du tout passé inaperçu, c'est Steve Jobs qui s'est retiré d'Apple pour des raisons de santé. Donc c'est pas sur ce point-là que je voudrais faire un commentaire, mais c'est sur faire le lien entre ça et une publication qui avait été faite par Augustin Landier et Xavier Gabex. Dans lequel il développe une théorie qui est que la croissance se fait de façon granulaire par le rôle d'entreprise ou de personne qui joue un rôle très particulier et que donc la croissance, le phénomène de progrès, est personnalisé. Or, justement, la question qui se pose à propos de Steve Jobs, c'est de savoir est-ce que ça va être une démonstration que l'innovation est faite de façon personnalisée, elle est due à certaines personnes exceptionnelles, ou est-ce que, finalement, ceux qui apparaissent comme des innovateurs sont plutôt ceux qui ont eu de la chance et que finalement le processus d'innovation est plutôt un phénomène de fond, une vague qui se développe. Voilà la question qu'on peut poser à propos de cet événement évidemment malheureux.
Oui,
mais
très triste en plus. Merci Xavier Tabon, merci à tous les cinq. Marc Zegabel, Enjeux les Échos dans le titre et le Sud lâche le Nord. Grand sujet là aussi sur les pays émergents qui auraient pris le relais des économies du Nord. C'est votre titre ce mois-ci, excusez-moi. Jacques Mistral, Xavier Timbaud, Dominique Plion et Olivier Pastret. Je voudrais très vite profiter des quelques secondes que nous sommes en train, je crois, de voler d'ailleurs, pour vous indiquer que nous avons en préparation une émission sur l'enseignement de l'économie. Nous l'avons déjà fait. On souhaite y revenir des sciences économiques. C'est l'association des professeurs de sciences économiques et sociales qui refuse ce qu'elle nomme leur liquidation. C'est aussi une actualité et c'est aussi un événement. Je crois que nous devons d'en faire part. On en discutera sans doute la semaine prochaine, à moins d'une actualité très très forte. Merci à notre équipe de réalisation. Je vais très vite à Laurence Genepin pour la préparation, la documentation à 9h, les informations.